Amis, Dieu est effectivement bon parce que c'est lui le premier qui s'est reposé le septième jour et créé à son image. Nous nous reposons aussi le septième jour, nous nous rappelons tout ce qu'il a fait. Nous rappelons ses œuvres, nous rappelons sa bonté, sa fidélité et ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Il veut nous enrichir, nous soutenir, nous encourager ce moment, ce dimanche où nous faisons une halte dans le travail, dans l'activité, et où nous prenons du temps pour nous tourner vers le Seigneur dans les cantiques, dans les prières, dans les échanges les uns avec les autres. Donc soyez convaincus que même s'il n'y a pas d'effet pyrotechnique, des choses qui touchent l'émotion, Dieu est là en esprit et il est avec nous pour nous ressourcer, pour nous fortifier par sa parole et de diverses manières. Et ce matin, j'aimerais que nous prenions le récit dans la Genèse chapitre 1, le récit de la création, ce merveilleux récit de la création. Genèse chapitre 1, et ce matin, le titre de la méditation, c'est « Le Dieu créateur du ciel et de la terre ». Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé, selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et toute arbre ayant en lui du fruit de l'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. L'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de la villa où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. » L'homme et la femme étaient tout venus et ils n'en avaient point honte. Voilà ce merveilleux récit de la création qui nous rappelle tout ce que Dieu a créé, comment il l'a fait. Que peut nous apprendre le récit de la création? Qu'apprenons-nous sur Dieu? Qu'apprenons-nous sur nous-mêmes? Le récit de la création nous montre à la fois la puissance de Dieu, son grand pouvoir, mais aussi l'amour de Dieu et sa bonté envers ses créatures. Intéressons-nous dans un premier temps à la puissance de Dieu. Tout au long de notre vie, nous avons de multiples besoins. Et le péché qui habite en nous ne nous facilite pas la tâche. Bien au contraire, il nous apporte plus de problèmes que de solutions. Alors nous avons souvent besoin de nous tourner vers Dieu pour obtenir de l'aide. Comment savons-nous que Dieu peut nous secourir dans tous nos besoins? Comment savons-nous que Dieu peut nous délivrer de toutes nos détresses? Qu'il peut nous fortifier dans toutes nos faiblesses? Comment pouvons-nous être davantage motivés à chercher le secours de Dieu? Nous ne le faisons pas toujours. Nous cherchons plutôt des solutions humaines avant de nous tourner vers Dieu. Mais comment pouvons-nous être davantage motivés à chercher le secours de Dieu dans les diverses situations de la vie? La réponse est simple. Nous devons nous souvenir de la création. Nous devons nous souvenir du Dieu créateur, le Dieu qui a été capable de créer le monde dans lequel nous vivons. Nous avons vu cela dans Genèse 1 et 2. Est aussi capable de nous secourir dans tous nos besoins. Le Dieu qui a été capable de créer souverainement ce monde complexe, majestueux et harmonieux, est tout à fait capable de nous secourir dans tous nos besoins, de nous soutenir dans toutes nos faiblesses, de nous fortifier dans toutes nos situations. Les chrétiens connaissent bien l'Éternel comme le Dieu sauveur. Mais connaissons-nous aussi bien Dieu comme le Créateur? Apprécions-nous aussi bien le fait que Dieu est Créateur? Sommes-nous autant émerveillés par le Dieu Créateur? Nous ne discernons pas assez la portée qu'a la connaissance du Dieu Créateur. Nous allons le voir ce matin. Mais la Bible insiste sur le fait que le Dieu Sauveur est le Dieu Créateur. Si nous voulons apprécier davantage la capacité de Dieu, la puissance de Dieu à nous secourir, nous devons nous souvenir qu'il est le Créateur Tout-Puissant. Nous trouvons dans la parole de Dieu bien des illustrations de ce principe. Considérons par exemple le peuple d'Israël, et je vous invite à prendre Ésaïe chapitre 40, pour voir comment la notion du Dieu Créateur est importante et est riche de bénédictions. Ésaïe, chapitre 40. À un moment de son histoire, le peuple d'Israël va se trouver en exil, à Babylone. Il sera complètement découragé. On peut le comprendre. Comment le prophète Ésaïe va-t-il encourager les exilés? Comment va-t-il les réconforter? Eh bien, Ésaïe va parler du Dieu Créateur. Dieu est capable de sauver son peuple de toutes les situations, justement parce qu'il est le Dieu Créateur. Et nous lisons Ésaïe, chapitre 40, versets 26 à 28. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Voilà que Dieu invite le peuple à se détourner des circonstances qu'il connaît pour regarder plus haut. Et lever les yeux en haut, ça veut dire lever les cieux et regarder toutes les étoiles et ce qu'il y a dans le ciel. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. On arrête la lecture là. On voit, voilà, qui a créé ces choses? Qui? Levez les yeux en haut et qui? Par son grand pouvoir et par sa force puissante, qui? Il n'en est pas une qui fasse défaut. Eh bien, c'est qui? Verset 28. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Job se trouvait aussi dans une situation terrible. Il était gravement atteint de la tête aux pieds d'une maladie et frappé par Satan. Et il se posait des questions. Eh bien, l'Éternel va l'encourager, va le soutenir, en lui rappelant qu'il est le Dieu créateur. Il va lui donner une leçon de botanique, une leçon de SVT, parler de la création, des étoiles, des animaux. Dans le psaume 19, verset 2, nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Le Seigneur, quand il voudra encourager ses disciples, dans Matthieu chapitre 6 aussi, il va leur rappeler qu'il est celui qui nourrit les oiseaux du ciel, qui habille les belles herbes des champs, le Dieu créateur. Donc voilà, on peut prendre un autre exemple aussi, et dans le psaume 121 que vous pouvez prendre, la même pensée fortifiante du Dieu créateur se retrouve dans le psaume 121. Dans le psaume 121, cantique des degrés, cantique des montées, le pèlerin se rend à Jérusalem pour y célébrer une des grandes fêtes de l'Ancien Testament. Il est conscient que des difficultés et des dangers de toute espèce l'attendent sur son parcours. La région est aride et risque de rencontrer des pillards. Alors il regarde vers Sion. Il cherche au loin les montagnes sur lesquelles s'élève Jérusalem, la ville sainte. Je lève les yeux vers les montagnes et s'interroge. D'où me viendra le secours? La réponse est simple et claire. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le Dieu créateur. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre est capable de secourir le pèlerin. Il est capable de te garder, au verset 3, il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Voilà. Le Dieu qui est capable de créer les cieux et la terre est capable aussi, justement, de secourir le pèlerin. Il est capable de te garder, il est capable de garder Israël, versets 4, 5, 6, 7. Le Dieu créateur est le Dieu rédempteur, fidèle à son alliance. Certains d'entre vous diront peut-être, oui, mais ça, c'est pour l'Ancien Testament. La notion du Dieu créateur, le langage de la création, appartient à l'Ancien Testament, mais pas du tout au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, ça disparaît. Eh bien, quand on parcourt le Nouveau Testament, on découvre qu'il parle encore du Dieu créateur. Le Nouveau Testament insiste de plusieurs façons sur la nécessité de connaître le pouvoir du Dieu créateur si nous voulons apprécier sa puissance en tant que Dieu sauveur. C'est ainsi que l'apôtre Paul utilise le langage de la création lorsqu'il veut parler, lorsqu'il veut décrire la puissance de Dieu qui sauve les pécheurs des ténèbres spirituelles. Prenez avec moi 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 6. De Corinthiens chapitre 4, verset 6. Alors nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 4, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous savons que Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Parce que nous avons eu la joie d'être pardonnés, d'être réconciliés avec Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous permet de communier avec lui. L'Esprit de Dieu qui nous permet d'aimer nos frères et nos sœurs. L'Esprit de Dieu qui nous permet d'avoir une espérance vivante, d'attendre le retour du Seigneur, d'être plein d'espoir malgré les difficultés de la vie, de savoir qu'il y a un Dieu qui prend soin de nous. Nous étions ses ennemis, maintenant nous sommes ses enfants. Eh bien, l'apôtre Paul dit, « Car Dieu qui a dit la lumière brilla du sein des ténèbres, et la lumière fut, eh bien c'est le même Dieu qui a fait briller la lumière dans nos cœurs. S'il peut faire briller la lumière physique, eh bien il peut aussi créer la lumière spirituelle. Il a la puissance pour le faire. Et ça, c'est le Dieu créateur qui le fait. L'apôtre Paul utilise une nouvelle fois le langage de la création quand il fait plus loin, quand il dit plus loin aux Corinthiens dans la même lettre, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, que vous connaissez tous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le langage de la création qui est encore utilisé pour nous parler des grandes vérités spirituelles. Le Nouveau Testament ne s'arrête pas là, dans son insistance sur le Dieu créateur. Quand il désire souligner la puissance de Christ comme sauveur, il utilise encore l'image de la création. Comment pouvons-nous être assurés que Christ peut nous sauver et nous garder? En gardant en mémoire que c'est lui qui a créé et qui soutient toutes choses. Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17. Et après, nous reviendrons dans Ésaïe, chapitre 40. Donc, Colossiens, chapitre 1, versets 16 à 17. On peut commencer au verset 12, Colossiens, chapitre 1, verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, le Dieu qui a créé la lumière. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Alors, connaître Dieu comme créateur, c'est connaître sa puissance. Cela constitue une source de réconfort, de paix, d'encouragement, comme ce fut le cas pour les Juifs qui étaient en exil à Babylone. Et nous reprenons Ésaïe, chapitre 40, et nous lisons un peu plus loin, versets 27 à 31. Ésaïe, chapitre 40, versets 27 à 31. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les cieux, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous avons besoin, une fois de plus, d'apprendre que notre Dieu, le Dieu qui sauve, est aussi le Dieu créateur. La connaissance de Dieu le créateur répond à nos doutes, à nos soupirs lorsque nous pensons qu'il se cache et qu'il nous a et que nous nous sentons abandonnés. Dieu a créé toutes choses. Il soutient toutes choses et veille sur toutes choses. Il ne se fatigue pas contrairement à nous. Il est le créateur. À ce titre, il nous soutiendra et il nous fortifiera. Le récit de la création nous montre donc, comme nous l'avons vu, la puissance de Dieu. Mais il nous montre encore autre chose. Il nous montre aussi l'amour de Dieu, la bonté de Dieu envers l'homme. Nous avons lu Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Il vous a peut-être semblé qu'il y avait là deux récits de la création. En réalité, les deux chapitres se complètent. Genèse chapitre 1 raconte l'histoire de la création et se termine en apothéose, je dirais, avec la création de l'homme. Vous avez constaté comme moi qu'un schéma se répète. Dieu parle et l'Éternel Dieu, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu parle, une nouvelle chose est créée, puis Dieu se réjouit de la qualité de son œuvre. Le schéma se répète jusqu'au cinquième jour. De Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre, de Genèse chapitre 1 verset 25. Pardon, Genèse chapitre 1 verset 1 jusqu'au verset 25. Et voilà qu'au verset 26 de Genèse chapitre 1, il y a quelque chose qui change. il y a un nouveau schéma. Dieu tient une sorte de conseil divin et décide de créer l'homme. On lit dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Vous remarquerez qu'il n'a pas été dit « Faisons l'homme selon son espèce », comme il l'a été dit auparavant au verset 11, 21, 24 et 25, quand il parlait de toute la création, de l'ère des animaux et tout cela. Tout ça a été fait selon son espèce. Mais l'homme, au contraire, a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, Genèse chapitre 1, verset 26. Nous sommes alors devant un tout nouveau type de créature, une créature qui entretient des rapports différents avec Dieu, puisque l'homme est fait à l'image de Dieu, une créature qui entretient des rapports tout à fait différents avec les autres créatures, puisque l'homme est appelé à dominer sur la créature, à les maîtriser. Nous mesurons alors que l'homme est l'aboutissement du dessein de Dieu dans la création, quand nous considérons le chapitre 1 de Genèse. Qu'apprenons-nous maintenant dans Genèse chapitre 2 ? Les choses changent un peu, le schéma est différent. L'homme est plutôt le centre de la création que son aboutissement. Genèse chapitre 2 parle de la création de l'homme, et puis tout autour, son environnement. Voilà. Toutefois, Genèse chapitre 1 et 2 se complètent. Un théologien écrit « Genèse chapitre 1 montre l'homme comme la finalité de la création. Genèse chapitre 2 le présente comme le commencement de l'histoire. » Alors que nous apprennent Genèse chapitre 1 et chapitre 2 ? Que nous apprennent Genèse chapitre 1 et 2 au sujet de Dieu ? Eh bien, Genèse chapitre 1 et 2 nous montrent l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu est plein de bonté envers l'homme dans tous les aspects de son existence. Dieu place l'homme dans un jardin et il répond à tous ses besoins. Dieu cultive avec l'homme une relation particulière, une relation d'amitié étroite. Dieu est extrêmement généreux dans la disposition qu'il a prise en faveur de l'homme. Nous allons en voir trois ce matin. Tout d'abord, Dieu confère à l'homme, première disposition, généreuse, tout d'abord, Dieu confère à l'homme une dignité unique. À part l'homme, tout a été créé selon son espèce dans un but défini par Dieu. Par contre, l'homme est créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Faisons l'homme à notre image, à la ressemblance de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 26. Les mots hébreux correspondant à image ou à ressemblance, font tous les deux référence à quelque chose qui est semblable, mais sans être identique, à ce qu'il représente. Donc quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », cela signifiait simplement pour les premiers lecteurs juifs qui lisaient « faisons l'homme pour qu'il soit comme nous et qu'il nous représente ». Donc l'homme créé à la ressemblance de Dieu était comme Dieu, mais pas identiquement, pas complètement comme Dieu, et l'homme le représentait de diverses manières. Prenez avec moi Genèse chapitre 5, verset 3, qui peut nous apporter un peu de lumière. Mais la même chose se voit. Genèse chapitre 5, chapitre 3, il nous est dit « Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. » Les mêmes mots, ce sont les mêmes mots hébreux. Sa ressemblance et son image. Qu'est-ce que ça veut dire? Seth n'était pas identique à Adam, mais il était semblable à lui de bien des manières, comme un fils est semblable à son père. Voilà donc. De même, chaque manière dont l'homme est semblable à Dieu contribue à ce qu'il soit l'image de Dieu, à ce qu'il soit à la ressemblance de Dieu. Un exemple, l'homme comme Dieu. L'homme est comme Dieu parce qu'il est capable de raisonner. Il a une intelligence, il a de la volonté et des émotions. Et la liste est longue, très très longue. Et c'est en étudiant la parole de Dieu que nous pouvons voir les attributs de Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il est, que nous pouvons voir aussi ce que l'homme fait et ce que l'homme est, et que nous pouvons voir eh bien, que l'homme est comme Dieu, pas complètement, et qu'il est semblable à lui. L'homme, donc, a été créé pour être un représentant de Dieu. Ainsi, Dieu domine le monde par l'intermédiaire de son représentant, l'homme. C'est pourquoi l'homme exerce la domination. Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'homme devait remplir la terre et veiller à son bon fonctionnement. L'homme, en quelque sorte, est destiné à être à la terre ce que Dieu est à l'univers. La dignité unique que Dieu a accordée à l'homme s'exprime de diverses façons quand on considère Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Tout d'abord, l'homme reçoit l'autorité de nommer les animaux. On voit que Genèse chapitre 2, on voit que verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Voilà. C'est l'homme qui nomme les animaux. C'est Dieu qui les amène vers lui. C'est une autorité que Dieu lui a donnée. On voit aussi que l'homme est capable d'exprimer de façon rationnelle l'adoration de toute la création. C'est ce que nous avons fait ce matin. Nous avons élevé nos voix et nos cœurs vers l'Éternel par des prières, par des chants. La création, les autres créatures ne le font pas comme ça. Il est aussi l'homme et celui à qui Dieu donne des instructions. Genèse chapitre 2, verset 15, où l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras éternellement. Et Genèse chapitre 1, verset 26 à 31, on voit aussi que Dieu demande aux hommes d'être féconds, de multiplier, de remplir la terre, de la dominer. Il donne à l'homme, et Dieu dit, verset 29, Genèse chapitre 1, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, et à ton soi, un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » C'est Dieu qui parle à l'homme. C'est lui qui donne à l'homme ses instructions. Enfin, Dieu donne aussi à l'homme le soin de prendre soin du jardin d'Éden. En parlant du jardin d'Éden, cela nous rappelle que le travail n'est pas une conséquence de la chute. On n'aime pas le travail. Mais au contraire, le travail fait partie de la dignité de l'homme. Parce que le travail existait déjà dès le commencement. L'homme devait prendre soin du jardin. L'homme est actif parce que celui qui l'a créé est actif. L'amour de Dieu pour l'homme, sa création spéciale, se voit donc dans la dignité unique qui lui est confiée. Servir Dieu et le glorifier. Mais l'amour de Dieu envers l'homme se manifeste encore dans un deuxième domaine. L'homme a été créé pour être en relation avec ses semblables et avec son créateur. C'est aussi une conséquence d'avoir été créé à l'image de Dieu. Le Dieu trinitaire, c'est trois personnes en un seul Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. De toute éternité, les trois membres de la Trinité ou de la Triunité jouissent d'une communion parfaite les uns avec les autres. Si Dieu était un être solitaire, comment il aurait pu aimer? Il n'y aurait eu personne en face pour manifester de l'amour. Mais Dieu est amour, nous dit la parole de Dieu. Et cet amour s'est exprimé parfaitement dans l'éternité au sein de la Trinité. On peut lire un exemple dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, versets 24 à 26. Pour voir qu'avant la fondation du monde, les trois êtres de la Trinité s'aimaient. Donc Jean, chapitre 17. Nous lisons au verset 24. Père, c'est Jésus qui parle. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Et parlant de cette unité au verset 20 de Jean chapitre 17, toujours dans cette prière au verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par la parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà. Au sein de la Trinité, il y avait la communion, de l'unité, de l'amour, de toute éternité. L'amour de Dieu aussi se manifeste pour sa création. On a lu ce matin Jean 3,16. Dieu aime le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait aussi la vie éternelle. Et Dieu aime particulièrement ses enfants, nous le savons. Jean chapitre 13, Jean chapitre 15, Jean chapitre 17 en parle. Et Dieu aussi nous rend capables d'aimer même nos ennemis. Matthieu chapitre 5, versets 42 à 48. Dieu nous rend capables d'aimer nos frères et sœurs en Christ, dans la foi. Et Dieu nous rend aussi capables de l'aimer lui-même. L'homme est donc fait à l'image de Dieu, comme un être relationnel, capable de nouer des relations d'amour avec ses semblables et avec son Créateur. N'est-ce pas merveilleux? Nous sommes créés pour faire l'expérience de la communion. Il y a par exemple ces liens d'amitié qui existent entre les hommes et les femmes. Quelle joie d'avoir des amis. On peut se perdre de vue pendant un an, deux ans, mais lorsqu'on se voit, c'est reparti. Quelle joie pour les jeunes et les âgés d'avoir des amis comme ça, parce qu'il y a des liens qui se créent spontanément, d'autres plus loin qui se construisent. Mais l'amitié est au nom de Dieu. Dieu veut que nous ayons des relations avec nos semblables. Il y a aussi ce lien d'amitié et de communion tout à fait particulier dans le lien du mariage. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. C'est Dieu qui a pris une partie de l'homme pour créer la femme et qui a amené la femme à l'homme. Tous ne se marieront pas. Mais le mariage est un don de Dieu. Et justement, le mariage constitue l'environnement favorable pour l'accueil et l'éducation des enfants. Il fixe aussi le cadre dans lequel les instincts sexuels trouvent leur satisfaction conformément à l'intention divine. Dans son immense bonté, Dieu a fait cadeau du mariage non seulement à ceux qu'il aime, ses enfants, mais encore à l'humanité entière. Même si les créatures rejettent Dieu, même si elles sont rebelles contre lui. Nous avons vu déjà deux manifestations de l'amour de Dieu envers l'homme. Dieu a conféré à l'homme une dignité unique. Il l'a aussi créé pour être un être relationnel. Mais il existe un troisième privilège accordé à l'homme que l'on trouve dans Genèse 2. C'est encore une manifestation de l'amour de Dieu. Dieu a créé l'homme pour qu'il l'adore. Et on peut prendre Genèse chapitre 2, verset 1. À toi. Et qu'est-ce que nous lisons au verset 1 ? Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Verset 2, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Après avoir achevé la grande œuvre, la création, Dieu s'y repose. Dieu nous donne le modèle à suivre. Le modèle suivi par le Créateur, 6 jours de travail, suivi d'un 7e jour de repos, devrait être le modèle pour la créature qui a été faite à l'image de Dieu. À cet égard, l'homme est fait à l'image de Dieu. Le jour de repos, bien sûr, c'est pas un jour de fainéantise. On reste dans son lit jusqu'à du matin au soir. C'est le jour où le travailleur peut prendre un temps pour jouir d'une communion plus profonde avec son Créateur. Il peut prendre plus de temps pour se consacrer à la communion avec son Dieu, la communion avec ses frères et sœurs, comme nous le faisons aujourd'hui. Et il peut aussi adorer son Dieu, la personne de Dieu. Le sabbat, ce jour de repos, constitue un autre bienfait que Dieu accorde à l'homme fait à son image. L'homme peut ainsi se ressourcer, renouveler ses forces, reprendre courage en contemplant tout ce que Dieu a accompli. Ce jour de repos incite l'homme à adorer son Créateur. En créant l'homme, Dieu n'a rien laissé inachevé. Tous les besoins de l'homme ont été satisfaits. Dieu a fait de l'homme le couronnement de sa création et l'a richement béni. Bien sûr, nous ne vivons plus dans un merveilleux jardin. Nous trouvons le travail pénible. On va devoir reprendre l'école, le lycée ou la fac, pour certains. Nos relations avec les autres ne sont pas ce qu'elles devraient être. Le mariage non plus, mais pas toujours. Les hommes ne louent pas spontanément Dieu. Pourquoi ? Parce que le péché a fait son entrée dans le monde. Pourtant, Dieu veut que nous fassions de lui ses délices. Il veut être l'objet de tout. Il veut être au centre de notre vie. Alors, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui partageait l'éternité avec Dieu, s'est fait homme. Il s'est rendu, non pas au jardin d'Éden, mais dans un désert, pour être tenté par le diable. Il s'est rendu à Golgotha, et là, sur la croix, il a pris nos péchés. Il a subi à notre place la colère de Dieu, le châtiment que méritaient nos iniquités, pour qu'un jour nous ayons à nouveau accès au paradis, si on peut s'exprimer ainsi. Parce que Jésus a accompli la grande œuvre de rédemption, nous pouvons apprécier Dieu non seulement comme sauveur, mais aussi comme créateur. Avez-vous placé votre confiance en lui? Avez-vous répondu à son appel? C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, versets 25 à 26, que nous lisons « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et la question qui vient, « Crois-tu cela ? Croyez-vous cela ?» Eh bien, que le Seigneur nous donne de méditer sur cette merveilleuse création et trouver du réconfort pour toutes les situations de notre vie.